Bonjour à tous. Dans la grande table des idées aujourd'hui, le voyage intellectuel de Fel Winsar, notre deuxième invité. Des paysages et des visages, l'économiste sénégalais raconte dans La saveur des derniers mètres, publié chez Philippe Ray, les rencontres et les lieux qui l'ont marqué, où, comment se forme une pensée. On en reparlera donc dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, la misère, elle finit par produire une sorte d'odeur naturelle, raconte-t-il. Ou encore, certains soirs, j'ai beau lever la tête, on dirait qu'il n'y a pas de ciel, une masse noire dont nous ne sommes rien que la base. Voilà ce que disent ces personnages. Et si on perçait alors ensemble un trou dans ce ciel sombre grâce à la littérature, rêver sa vie et réenchanter le monde. Le romancier et poète haïtien Lionel Trouillot, auteur d'Antoine Dégommier chez Actes Sud, est notre premier invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez. Sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Le premier est poète, le second débrouillard. Le premier utilise les mots, le second utilise ses points. L'un incarne l'imaginaire en fuite, l'autre la survie au quotidien. Bonjour Lionel Trouillot.
Bonjour.
On vient de camper rapidement peut-être les deux personnages principaux de votre nouveau roman, Antoine Dégommier, qui paraît chez Actes Sud. Plaisir de vous avoir avec nous, à distance, mais le cœur y est. Comment allez-vous ?
Ça va. Les conditions sont difficiles dans le pays, comme vous le savez peut-être. Politiquement, les choses ne se passent pas bien. Il y a une tentative de retourner à des pratiques dictatoriales de la part du pouvoir et à des contestations légitimes. Personnellement, ça va.
En attendant, oui, il y a tout ce contexte dont on va reparler. En attendant, vous écrivez et paraît aujourd'hui, ici, en librairie, Antoine Dégommier, chez Actes Sud, votre nouveau roman. Francky et Titoni, son frère, ils habitent ensemble à Port-au-Prince. Leur vie gravite autour de leur mère, Antoinette, qu'ils aiment tendrement. Antoinette, c'est comme vous l'écrivez, Lionel Trouillot, une pauvrette avec des jambes fatiguées, deux fils, un batailleur et un asthmatique, parmi lesquels un préféré, Francky, c'est son préféré. Alors ils ont aussi en commun ces deux garçons d'être les descendants d'Antoine Dégommier. Antoine Dégommier, c'est un devin dont vous écrivez, il est dit qu'il n'élevait jamais la voix, mangeait peu, buvait peu, n'entretenait de relations sexuelles avec sa femme et ses maîtresses que les jeudis dans les mois pairs, un mercredi sur deux les autres mois, avait inscrit aussi à lui tout seul le nom de son village sur la carte du département, du pays, de l'Amérique, voire du monde. C'est un homme exemplaire, cet Antoine Dégommier, Lionel Trouillot.
Écoutez, moi j'ai grandi, enfin aujourd'hui encore, nous avons tous grandi avec la légende d'Antoine Dégommier quelque part dans nos esprits. Quand un enfant fait ce qu'il ne faut pas selon ses parents, les parents lui disent « si tu persistes dans l'erreur, ce qui va t'arriver, même Antoine Dégommier n'avait pas vu venir ». Donc Antoine Dégommier, il est quelque part omniprésent dans l'imaginaire haïtien. En même temps, il n'y a jamais eu de travaux véritablement, de travaux scientifiques. Il y a eu, je crois, un mémoire et un article de quelques pages. Un mémoire d'étudiant et un article de quelques pages sur Antoine Dégommier. C'est, comme on dit, une légende qui traîne par terre. Donc, moi, j'ai essayé de reconstituer avec beaucoup d'éléments de fantaisie aussi ce personnage, Antoine Dégommier. Quel sens un personnage comme Antoine Dégommier peut-il avoir aujourd'hui pour les garçons vivant dans les conditions dans lesquelles vivent Francky et Titoni? C'est un peu ça la question pour moi. Que faire d'une légende qui traîne par terre?
Une légende avec qui traîne par terre, c'est le mot que vous lui donnez. C'est très beau d'imaginer aussi la vie de ce personnage qui finalement, s'il n'a jamais vraiment existé, en tout cas on ne le sait pas, a fini par exister par l'oralité, par ces histoires qu'on se racontait de génération en génération. Vous auriez aimé le rencontrer ?
Ah oui, sans doute. Sans doute, je suis passé récemment au Gommier où il a vécu. Il a vraiment existé, non, il n'y a pas de doute sur son existence réelle. Et tout ce qui est dit dans le livre, c'est, de ce point de vue-là, c'est vrai. Les gens allaient le visiter, il était vraiment consulté par les simples citoyens, par des figures politiques, par des figures importantes de la société, et sans doute aussi par quelques étrangers. Il a vraiment existé, il est décédé au début des années 40 du siècle dernier. Il y a sa photo, il y a quelques informations sur son existence, mais il n'y a rien, je dirais, d'établi, rien de suffisant pour établir une véritable biographie. Donc moi, je suis parti des quelques éléments connus pour un peu habiller tout cela de la part de fantaisie qui m'est Francky, puisque c'est pas moi qui raconte, c'est Francky qui raconte la vie d'Antoine Degommier, qui revisite cette existence, encore une fois, pour essayer de trouver dans l'existence d'Antoine Degommier, dans les propos qu'il prête à Antoine Degommier, un sens à sa propre.
Exactement, il va se replonger dans la vie hein, d'Antoine Degommier, il est paralysé par un accident, Francky, ce frère, et il rêve du coup de raconter, d'écrire la vie, le livre d'Antoine Degommier. Hein. Il va effectuer ce travail de mémoire, et ça son frère Titoni ne comprend pas, il comprend pas sa démarche, il comprend pas ce besoin de se replonger à la fois dans le passé, dans la mémoire de l'île et de ce personnage. Pourquoi cette incompréhension entre les deux?
Pourquoi cette incompréhension entre les deux? Je pense que quand on fait face à des conditions on peut choisir justement d'aller vers le rêve. Antoine Degommier remplace un peu Dieu ou la religion ou une conviction quelconque et essayer de transcender, je dirais, ses propres conditions d'existence à partir de cette inscription dans un ailleurs ou dans une symbolique. Comme on peut aussi dire, écoutez, la réalité est telle que moi je n'ai pas le temps de construire du mythe. Donc, l'un ne comprend pas l'autre, hein, puisque, enfin, dans le roman tel qu'il est construit, tel que sont construits les personnages, l'un doit quand même apporter à manger pour deux. Et l'autre, puisqu'il est handicapé et fragile, il ne peut pas participer véritablement à cette vie matérielle. Donc il faut bien qu'il trouve dans sa chambrette, il faut bien qu'il trouve quelque chose à produire. Et lui ne peut hélas produire que du langage.
Oui, c'est ça. L'un, Titoni, hein, est tourné vraiment vers l'avenir, voire vers le présent, le quotidien, puisqu'il doit nourrir la famille, nourrir son frère aussi. Et c'est lui, au quotidien, hein, qui encaisse hein, la violence, la dureté. Cette violence avec laquelle vous avez ouvert notre discussion omniprésente en Haïti. On va écouter les mots à ce sujet de l'écrivaine Yannick Larince.
C'est beaucoup plus la violence subie par ces populations, parce que elle est quotidienne. Comment faire pour payer l'école des enfants? Comment faire pour manger? Comment faire? Et pourtant, au bout de la journée, on arrive à manger. Et c'est toujours une mère qui se débrouille, on arrive à manger. Au bout du compte, au bout de l'année, on arrive plus ou moins à payer l'école et voilà, la scolarité se fait. Donc c'est cette espèce de savoir, finalement, comment arriver avec ce peu à tenir, à faire humanité, à continuer à vivre, à rire, voilà. Et ça, quand on est de l'autre côté, c'est pas évident de le comprendre. Et de comprendre aussi peut-être cette sagesse qui fait que les gens continuent malgré tout, parce que il y a une patience infinie. Parce que ça, les gens endurent ça de génération en génération. Je dis souvent que le peuple haïtien a une patience, mais infinie.
Lionel Trouillot, est-ce que vous êtes d'accord avec Yannick Larince? Est-ce que vous parleriez vous aussi de cette patience infinie comme d'une vertu, une qualité essentielle que vous reconnaissez au peuple haïtien et qui n'empêcherait pas quoi peut-être? La colère, l'esprit de révolte?
Écoutez, moi je pense que je sens que cette patience tourne à l'impatience. Et ce qui est juste, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège de la résilience du peuple haïtien, sa capacité à accepter le malheur, à vivre dedans, à créer dedans, à être heureux dedans. C'est injuste que les gens vivent dans des conditions pareilles. Ils s'en rendent compte, comme l'écrivait un écrivain français en 1789, parlant du peuple français, le peuple s'est rendu compte qu'il est pauvre. Et ça, c'est important. Je pense que cette révolte qu'on sent, on n'a pas forcément encore trouvé les expressions politiques adéquates lui permettant de s'installer pour transformer la société vers plus de justice, d'équité. Mais ce qui se passe, à mon avis, est intéressant. On sort justement de cette sorte de fatalité, c'est comme ça, mais on fait avec. Et je pense que c'est aussi ça la dignité des jeunes aujourd'hui, de dire non, on ne peut pas continuer à vivre dans de telles conditions.
Avoir ces deux personnages, Lionel Trouillot, si opposés, ces deux frères si différents, est-ce que ça vous permet à vous de raconter, on le sait, hein, comme souvent d'ailleurs dans vos romans, une pluralité de pensées et de réalités? Est-ce que dans la vie aussi, comme dans le roman, vous avez, vous, ce goût de l'équilibre, ce goût de la nuance, du contraste, voire du paradoxe?
Dans la vie, je ne sais pas, et je ne pense pas que ça soit particulièrement intéressant, mais il me semble que dans l'intelligence du monde, dans l'intelligence de la réalité, il est souvent d'essayer de passer derrière les yeux de l'autre et d'essayer d'entendre à partir des oreilles de l'autre, parce que nous ne voyons pas les mêmes choses, nous n'entendons pas les mêmes choses. Et il est important pour moi, si j'essaie d'écrire des romans, dans une relation un peu de fidélité, quelque part, au réel, il est important pour moi de faire entendre ces différences qui nous fondent comme communauté humaine. Et surtout quand on parle de garçons ou de personnages des milieux populaires, on a tendance à les présenter comme s'ils étaient des statistiques, comme dit d'ailleurs Titoni, les riches, ils croient qu'on pisse tous en même temps et qu'on n'a pas d'idée personnelle. C'est important de montrer que dans ces milieux-là, il y a justement différentes façons d'être au monde, de construire sa présence au monde. Donc oui, pour moi, c'est essentiel. Essayer d'entendre toutes les voix et de faire entendre un maximum de voix.
Et le contraire de la polyphonie, c'est les corridors, hein, ce pluriel qui uniformise, qui désincarne, à qui vous avez envie de rendre son singulier souvent. Hein.
Ah oui, oui, il y a une condition collective, il y a des rituels, mais même à l'intérieur de cette condition collective, même à l'intérieur de ces rituels, il y a toujours de la place, je dirais, pour l'individualité. Tous les cancres ne deviennent pas des chefs de gang. Et il y en a qui choisissent de partir, il y en a qui choisissent de rester, il y en a qui choisissent d'essayer d'avoir une éducation leur permettant d'assurer un minimum de revenus, d'autres qui vivent au jour le jour. Et puis il y a beaucoup d'humour, et puis il y a les relations à la sexualité, à l'amour, au désir, à l'amitié. Tout cela, c'est toujours un vaste monde. Il n'y a pas une unicité. Vous savez, dans les milieux pauvres, voilà, les gens ne parlent jamais à l'unisson. Sauf dans les situations et un peu caractère de rituel.
Ces deux frères, Titoni et Francky, ils vivent à Port-au-Prince, hein, la sale ville, comme vous l'écrivez, Lionel Trouillot, dans un quartier pauvre et assez violent. Et effectivement, pendant que Francky, on le racontait, se tourne vers le passé, se tourne vers les racines et tente de les raconter à travers la figure de ce devin, de ce Antoine Desgommiers, auquel vous avez donné le titre de votre roman, eh bien, son frère, lui, se débrouille au quotidien pour tenter de gagner quelques sous et faire vivre aussi la fratrie notamment. Et il raconte, lui, ce quotidien qu'il vit, hein, cette jeunesse qui doit à sa manière vivre de mille métiers et tenter aussi de survivre en épousant plusieurs vies pour tenter de survivre à cette réalité qui est somme toute très violente. Il y a cette image, je l'évoquais, du corridor. Enfin, c'est vous qui l'évoquez dans votre roman, Lionel Trouillot, cette misère du corridor. Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il dit, ce corridor?
Vous savez, quand vous passez, quand vous longez ce qu'on appelle les rues principales, dans Port-au-Prince, vous ne voyez pas tout ce peuple qui vit dans ce qu'on appelle, chez nous, les corridors. Il y a tout un monde, il y a toute une vie, ce sont des petits couloirs, on peut même pas appeler ça des rues, c'est même pas forcément des venelles, ce sont des espaces comme ça, plutôt réduits. Et à l'intérieur de ces espaces réduits, il y a des maisonnettes, il y a même parfois des maisons à étage, il y a tout un monde, mais c'est une misère, il n'y a aucun service, je dirais, normal, eau potable, parfois pas d'électricité, il n'y a rien de ce type, et il y a tout un peuple qui vit là, et ce peuple, je pense qu'on ne parle pas suffisamment de lui dans la littérature. Moi, je me pose souvent la question, quand j'aborde un roman, quelle est la quantité de réel que je vais essayer d'y mettre. Pour moi, c'est important. La littérature peut quand même, elle n'est pas obligée, il n'y a pas d'obligation, évidemment, pour l'écrivain, mais l'écrivain peut choisir aussi de donner à voir ce qui n'est pas vu. Donc, ces corridors, souvent, on passe, ils sont là, on n'entre pas dedans. Et quand on longe la rue principale, on n'imagine pas forcément ce qu'il y a caché dans ces corridors. Donc, j'ai voulu un peu visiter ces corridors, me rappeler à moi-même, me rappeler éventuellement aux lecteurs qu'il y a des gens qui vivent là et qui vivent comme ça.
Lionel Trouillot, vous êtes avec nous en direct de chez vous, à Port-au-Prince aussi.
Oui.
On entendait tout à l'heure, en ouverture de notre discussion, un coq nous alerter sur le fait qu'il est probablement très tôt chez vous. Quelle heure est-il ?
Ah, il est 6h18 chez moi.
Il est 6h18. Merci beaucoup de vous être réveillé si tôt avec le son, la voix, le cri du coq pour être avec nous sur France Culture. Il est 12h18 chez nous. Le corridor, dans le corridor, écrivez-vous Lionel Trouillot, le dimanche matin, ça pue moins que les autres jours. La misère, c'est quand elle s'active qu'elle répand vraiment ses odeurs. Avec la sueur, les marchandises pourries, les restes qu'elle promène dans les vieux sacs troués. Le dimanche matin, c'est son heure de repos, le repos du pauvre, c'est l'ennui. Alors pour se désennuyer, tout le monde écoute la radio et ça fait un sacré concert. France Culture, il est 12h19.
Themselves, their families, and their futures. There are more poor than ever, more families in trouble, more and more people who need help but can't find it. People who sleep in the city streets. Where we come from.
dans l'actualité musicale cette semaine, l'album à venir. Il sera dans les bacs vendredi du producteur de hip et trip-hop musicien français Wax Taylor avec ce titre annonciateur Misery, sombre avenir hein, d'ailleurs, où il s'invite, où s'invite la chanteuse Rosemary Stanley pour chanter aux côtés de Wax Taylor.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et à Paris, comme à Port-au-Prince, vous l'entendez, Lionel Trouillot, tout le monde écoute la radio pour se désennuyer. La radio, c'est un média important dans votre vie, à vous, entendre ces voix venues du monde entier?
À moi, non, pour être honnête, parce que je cours souvent, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour écouter la radio, mais dans la vie, les Haïtiens, certainement.
Donc vous n'êtes pas un Haïtien comme les autres, pour le coup?
Sur ce point-là, peut-être pas. Ils n'ont pas comme la majorité.
En revanche, comme la majorité des vôtres...
On écoute les bruits de la rue et ça passe par la radio. Il y a toujours des radios quelque part qu'on écoute.
On écoute les bruits de la rue, mais on écoute aussi les histoires des autres, les contes, les fables, ça c'est essentiel, c'est important. On va écouter les mots à ce sujet de René Depestre, qui nous parle de ce pays à histoire qu'est Haïti.
On raconte beaucoup de contes en Haïti. Il y a beaucoup de... C'est un pays à histoire, à tous les points de vue, dans le double sens du mot. Il y a des cycles de contes. Il y a le cycle de Bouki et Mali, c'est un peu comme le roman du renard. Il y a des cycles fantastiques. Et puis, il y a des histoires qui se déroulent surtout à la campagne. Il y a des histoires de la magie, il y a des contes magiques. Il y a un répertoire de contes extraordinaire, un répertoire oral que j'ai écouté pendant toute mon enfance, soit dans ma famille, soit de la bouche de paysans que je fréquentais quand nous vivions à la campagne.
Voilà, Haïti, un pays à histoire, Lionel Trouillot, vous n'avez en fait aucun mérite. Toutes les histoires sont dans la nature, là-bas.
Les histoires sont... Moi, je dis que souvent, les romanciers, ils font fondamentalement un travail de collecte. Après, ils vont redistribuer un peu ce qu'ils ont collecté. Je suis assez modeste là-dessus, mais hélas, ce que dit René est en train de disparaître. On raconte de moins en moins en Haïti la présence désastreuse des, moi je les appelle des sectes sous l'obédience des évangélistes américains, et tout ce qui est culture populaire est menacé par ces gens qui livrent carrément une guerre frontale à la culture populaire, au vaudou, aux traditions culturelles haïtiennes. Et c'est aussi pour cela que j'ai voulu écrire ce livre, en partant de personnages qui a vraiment existé. Antoine Desgommiers, ayant vraiment existé, il permet de faire le lien entre le réel et le rêve. Donc entre le récit à caractère quelque peu historique ou biographique et le rêve et la fiction. C'est pour ça que je l'ai choisi, et l'expression « une légende qui traîne par terre ». Il y a aussi dedans un contenu, je dirais, quasiment politique. Comment se fait-il que ce pays de légende, ce pays de contes, ce pays d'histoire, comme disait Depestre, on a l'impression de plus en plus qu'il ignore ce qu'il sait, qu'il ne sait même plus se raconter des histoires, qu'il n'a même plus l'abri ou la relance du récit, du conte, du rêve, pour penser son avenir. Et donc, je revendique un caractère quelque peu politique au choix de faire un roman basé sur la figure d'Antoine Desgommiers, pour justement rendre hommage à cet art du conte, hein, du récit, et signaler aussi que nous avons besoin de récits pour nous constituer.
Besoin de récits et besoin de rêves aussi. Hein. C'est Franck Etienne, le poète haïtien, qui parle d'un pays en panne d'imaginaire, d'où l'importance du travail des écrivains, qui ne font pas qu'un travail de collecte. Hein. Vous comparez souvent à des sociologues. Hein. Il y a aussi dans le travail de l'écrivain la nécessité peut-être de réembellir le monde, hein, avec les mots, réembellir cette réalité. C'est intéressant quand vous dites qu'il faut aujourd'hui réconcilier le rêve et le réel. C'est finalement ce que font ces deux frères, hein, Titoni et Francky, dans ce roman, le vôtre qui paraît aujourd'hui, Lionel Trouillot, Antoine Desgommiers. Parce que petit à petit, le « nous » devient « je », le « deux » devient « un ». Titoni, c'est le corps valide et fort, et Francky, c'est l'esprit respectueux, l'esprit fin, le rêveur. Et ce dualisme cartésien que vous racontez, il revient jusque dans la forme de votre roman, dans sa narration, dans sa typographie. Mais au fond, ces deux paroles, ces deux manières d'être au monde, vous parvenez à les réunir, hein, à travers le roman.
C'est ça l'idée de vivre ensemble. Et enfin, pour moi, il faut quand même habiter nos différences, accepter nos différences et dans ces différences, sans forcément rompre avec ces différences, trouver le lieu du commun, trouver le lieu du nous. Trouver le lieu du nous, mais je pense que plus les gens vont vers l'expression de leur individualité, je ne dis pas forcément de l'individualisme, mais de leur individualité, plus ils vont être disponibles pour participer à l'entreprise de la vie collective. Donc oui, il y a fondamentalement dans le roman cette idée de cette différence, mais une différence qui ne transforme pas ses frères en ennemis, une différence qui ne rend pas la parole de l'un inaudible à l'autre, parce que justement nous avons à nous dire les choses, comme l'écrivait un poète haïtien, écoutez compagnon, je vais vous dire les choses, nous avons à nous dire des choses parce que nous devons vivre ensemble, parce que nous devons améliorer nos conditions d'existence, parce que nous devons essayer de produire du bonheur. Donc c'est un peu cela modestement aussi que j'explore dans Antoine Desgommiers.
Après le journal de Thomas Cluzel, Lionel Trouillot, c'est Fel Windsor qui sera notre invité en direct du Sénégal. Vous vous connaissez, hein, je crois. Il raconte dans son livre « La saveur des derniers mètres », son carnet de route, son carnet de voyage, vous avoir rencontré dans un dialogue silencieux, intime et fécond. Il raconte cette amitié et il dit aussi que Haïti est pour lui un rêve, une intimité sensible, un lieu où des femmes et des hommes font face à un destin farouche, avec les ultimes armes de la dignité et de la poésie. On se demande, quand un poète haïtien rencontre un économiste musicien sénégalais, de quoi parle-t-il ?
Eh bien, vous savez, nous, on s'est rencontrés, il était relativement jeune, il y a quelques années de cela, parce qu'il avait été lauréat du prix des 5 continents de la francophonie. Et je suis membre du jury, donc ça a été un bonheur de le rencontrer. Son livre était d'ailleurs vraiment un très beau livre. Et on a aussi un secret entre nous dont on a beaucoup parlé, c'est que on est tous les deux passionnés des arts martiaux et on s'est retrouvés aussi à parler d'arts martiaux une fois à Port-au-Prince, une fois à Saint-Louis du Sénégal. Et c'est vraiment quelqu'un, je suis très content de l'avoir rencontré et de voir que sa voix est de plus en plus écoutée.
Merci de nous avoir partagé ce secret. On lui demandera aujourd'hui, enfin dans une vingtaine de minutes quand il sera avec nous, quel autre secret vous avez pu partager ensemble. Immense merci Lionel Trouillot, Antoine Desgommiers, votre roman paraît chez Actes Sud. Merci d'avoir été avec nous. Merci.